La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Le temps des bûchers. Starwalk est une écrivaine et activiste écolo-féministe américaine, très impliquée dans la lutte anti-nucléaire et théoricienne du néopaganisme. Elle s'est fait connaître dans le milieu activiste pour ses formations à l'action directe non violente, en particulier depuis Seattle. Ce texte est extrait de Femmes, magie et politique, paru chez les Empêcheurs de penser en rond en 2003.
Elle a peur. Sa peur a une odeur plus forte que les aiguilles de pin que foulent ses pieds sur le sentier de la forêt. La terre fume après la pluie de printemps. Son propre cœur est plus sonore que le meuglement du bétail sur le pré communal. La vieille femme porte un panier d'herbes et de racines qu'elle a arrachées. Il semble, à son bras, lourd comme le temps. Ses pieds sur le sentier sont les pieds de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Cela fait des siècles qu'elle marche sous ses chaînes et ses pins, qu'elle cueille des herbes et les rapporte pour les sécher sous les avancées du toit de sa chaumière sur le pré communal. Depuis toujours, les gens du village viennent à elle. Ses mains sont des mains qui guérissent. Elles peuvent retourner l'enfant dans le ventre de sa mère. Sa voix murmurante charme la souffrance et la chasse, ou berce l'insomniaque jusqu'au sommeil. Elle croit qu'elle a du sang de fée dans les veines, le sang de l'ancienne race qui élevait les pierres vers le ciel et ne construisait pas d'église. À la pensée de l'église, elle frissonne. Elle se souvient de son rêve de la nuit précédente, le papier cloué sur la porte de l'église. Elle ne pouvait pas le lire. Qu'est-ce que c'était ? La proclamation d'une chasse sorcière ? Elle se passe les mains sur les yeux. Ces jours-ci, la vision est un malheur. Ses rêves sont hantés par les visages de femmes torturées, leurs yeux sans sommeil, les paupières lourdes, tandis qu'elles doivent marcher, monter, redescendre, nuit après nuit, affaiblies par la faim, les corps rasés et offerts en spectacle à la foule, transpercés pour trouver la preuve qu'ils appellent les marques du diable, puis pris pour l'amusement privé des geôliers. Et ils étaient doux en Angleterre, où les sorcières étaient seulement pendues. Elle pense aux récits, murmurés à des réunions venant d'Allemagne et de France, et parlant de mécanismes pour leur écraser les os et leur désarticuler les membres, de veines déchirées et de sang répandu dans la poussière, de chair carbonisée tandis que les flammes s'élèvent autour du bûcher. Pourrait-elle garder le silence sous cette torture ? Ou se briserait-elle ? Avouerait-elle n'importe quoi ? Dénoncerait-elle, comme ses compagnes sorcières, n'importe qui ? Toutes celles qu'ils veulent ? Elle ne sait pas. Elle espère qu'elle ne saura jamais. La vieille femme fait le signe de bannissement de sa main gauche et continue son chemin. Peut-être le papier cloué du rêve était-il quelque chose de complètement différent. Mais il avait une mauvaise odeur. En closure, vont-ils diviser la terre commune, construire des barrières, détruire les petites chaumières comme la sienne ? Elle sent un coup de poignard sous son corsage et s'assoit, à peine capable de respirer. Oui, c'était ça. Que va-t-elle faire ? Qui parlera pour elle ou l'acceptera chez lui ? Elle n'a pas de mari, pas d'enfant. Autrefois, le village l'aurait protégée, mais maintenant, les prêtres ont bien fait leur travail. Les malades la craignent, même lorsqu'ils viennent lui demander son aide. Les villageois ont peur les uns des autres. Les mauvaises récoltes, les loyers des terres, le prix de la nourriture qui augmente toujours. Il y a trop de rats à gratter le même petit tas de grains, et les prêtres et les prêcheurs sont toujours dessus pour se l'accaparer. Mais il y a eu des soulèvements à l'ouest et au nord contre les enclosures. Il pourrait y en avoir ici. Elle se retourne et regarde les profondeurs de la forêt. Un moment, elle est tentée de s'y enfoncer, de suivre le chemin plus loin qu'elle n'a jamais été. Certains ont dit que ceux de l'ancienne race vivaient encore au centre caché de la forêt. L'abriterait-il ? Où trouverait-elle les campements des gens sans maître, des bohémiens, des hors-la-loi, de ceux qui ont été expulsés comme elle de la terre ? La vie serait-elle plus libre sous les arbres ? Aurait-il besoin d'une guérisseuse ? Et surgirait-il un jour des bois et des landes, une armée de dépossédés, pour détruire les barrières des seigneurs, des châteaux et les églises, pour restaurer la liberté de leur propre terre ? Elle reste immobile. Mais finalement, elle remet son panier à l'épaule et repart vers le village. La jeune Jaunet au moulin est près d'accoucher. et la vieille femme sait que ce sera une naissance difficile. Elle aura besoin des herbes qu'elle ramène dans ce panier. Elle a peur, mais elle continue à marcher. « Nous avons toujours survécu, se dit-elle. Nous survivrons toujours. » Elle se le répète encore et encore, comme une incantation.
Nous survivons encore, dans la culture de la distance. Pour combien de temps ? Nul ne le sait. Mais, pour transformer cette culture intelligemment, nous devons la comprendre, trouver ses racines, connaître son histoire. Non que la mise à distance découle linéairement d'un événement ou d'une période historique particulière, mais parce que le passé est toujours vivant dans le présent. Nous survivons encore, dans la culture de la distance. Pour combien de temps ? Nul ne le sait. Mais, pour transformer cette culture intelligemment, nous devons la comprendre, trouver ses racines, connaître son histoire. Non que la mise à distance découle linéairement d'un événement ou d'une période historique particulière, mais parce que le passé est toujours vivant dans le présent. Le drame de la mise à distance est une histoire longue et complexe, et le raconter complètement serait refaire toute l'histoire. Mais au moins, nous pouvons lever le rideau sur la première scène de ce qui est peut-être le dernier acte et considérer de près l'époque où vivait cette vieille femme, les 16e et 17e siècles. Une époque où la culture occidentale a subi des changements cruciaux qui ont produit le type particulier de mise à distance qui caractérise le monde moderne. Deux descriptions valent mieux qu'une, disait Gregory Bateson dans Mind and Nature. Car la combinaison de différents éléments d'information définit une manière très puissante d'approcher ce que j'appelle le schème qui connecte. Si nous regardons les 16e et 17e siècles en vision binoculaire, nous pouvons voir avec un relief aigu les nombreuses facettes du dilemme qui est le nôtre. Un œil nous donne la vision qui nous est familière. Nous voyons la période de la Renaissance et de la Réforme comme une grande floraison d'art, de science et d'humanisme. Un moment où les chaînes contraignantes du dogme ont été brisées. Un moment de questionnement et d'exploration, de naissance de nouvelles religions et de réévaluation de la corruption des vieilles institutions. Un moment de découverte et d'illumination. Mais fermons cet œil et regardons par l'autre. L'œil gauche, l'œil de sorcière. Et les 16e et 17e siècles sont le temps des bûchers, celui où la persécution des sorcières ou des femmes supposées l'être a atteint son sommet. Des temps de terreur et de torture, des temps de supplice et de gibet, de confessions forcées, d'enfants utilisés comme témoins contre leur mère, de morts publiques sur le bûcher. Avec la vision binoculaire, la question qui se dessine n'est pas pourquoi ont-ils persécuté les sorcières ? L'histoire de l'Église est une histoire de persécution. Les bûchers des sorcières n'ont pas été un phénomène isolé. Ils doivent être appréhendés dans le contexte de siècles de sang et de terreur. Pour les Juifs, le Moyen-Âge a été une période de restrictions sans cesse croissantes, d'humiliation, d'expulsion et de massacres de masse. En Espagne, les maranes convertis de force qui continuaient à pratiquer le judaïsme secrètement, étaient torturés par les inquisiteurs et, s'ils ne se repentaient pas, étaient brûlés comme les sorcières sur le bûcher. Les chrétiens hérétiques, pris individuellement ou en tant que communauté comme les Vaudois et les Albigeois, furent aussi suppliciés par l'épée et par le feu. Rosemary Rutzer souligne dans « New Woman, New Earth » Sexist Ideologize and Human Liberation, que beaucoup d'idées projetées ensuite sur les sorcières, comme les orgies nocturnes et les sacrifices d'enfants, avaient d'abord été dirigées par l'Inquisition contre les hérétiques. L'image du juif comme étranger démoniaque était semblable de bien des manières à celle de la sorcière. Le juif était considéré comme un adorateur du diable, équipé de cornes, de griffes et d'une queue, et chevauchant une chèvre satanique. On croyait que le juif, comme la sorcière, volait l'Eucharistie et se livrer à d'autres caricatures blasphématoires des rituels catholiques. Les persécutions des sorcières se sont cependant distinguées de celles des juifs et d'hérétiques de plusieurs manières. D'abord, elles étaient dirigées principalement, bien que non exclusivement, contre des femmes, spécialement au XVIe et XVIIe siècle. Les sorcières ne formaient pas un groupe ethnique et religieux étranger, comme les juifs, exclus de la société chrétienne. Elles ne formaient pas non plus une secte étrangère, clairement identifiée, comme les albigeois, avec une doctrine et une organisation bien définies. Il est vrai que les sorcières furent accusées d'adorer le diable, mais pas dans le même sens que les maranes, par exemple, à qui l'on reprochait de continuer leur culte juif traditionnel.
Le diable, dans l'esprit des chasseurs de sorcières, était un être réel et les sorcières étaient accusées d'avoir des relations sociales et sexuelles réelles avec lui. On leur attribuait nombre d'exploits fantastiques et bizarres, en contradiction avec notre sens ordinaire de la réalité. Déplacements aériens nocturnes, transformation d'humains en animaux, enlèvement magique de pénis et dissimulation de ceux-ci dans des nids d'oiseaux. De tels exploits nous paraissent le fruit d'un esprit souffrant d'hallucinations paranoïdes pleinement développées. Tout au long du Moyen-Âge, il y eut des chasses aux sorcières sporadiques. Mais à l'apogée de la Renaissance, à la fin du XVe siècle, elles se répandirent largement. En 1484, une bulle du pape Innocent VIII déclarait la sorcellerie une hérésie et étendait le pouvoir des inquisiteurs à la chasse aux sorcières en Allemagne du Sud. En 1486, les inquisiteurs, dominicains Kramer et Sprenger, publiaient le Malleus Maleficarum, appelé le Marteau des sorcières, qui devint le manuel des chasseurs de sorcières pour les 2 siècles et demi suivants. Les persécutions augmentèrent pendant le XVIe siècle pour atteindre une extension et une répression maximale au début du XVIIe siècle. Le procès des sorcières de Salem à la fin du XVIIe siècle fut une crise localisée que je n'examinerai pas ici. Les estimations du nombre de sorcières effectivement condamnées vont de 100 000 à 9 millions. Comme le dit l'auteur dans la préface à la 15e édition, l'estimation de 9 millions est nettement trop élevée. Cependant, les procès ont concerné en Allemagne, notamment, environ 1 femme sur 1000, moins dans les autres pays européens. La sentence n'était pas toujours le bûcher, mais souvent le bannissement du village, ce qui conduisait à l'errance et prédisposait à de nouvelles poursuites. Les plus élevés incluent tous les types de condamnations, les plus basses uniquement les exécutions officiellement enregistrées. Le véritable nombre est difficile à estimer, mais le plus important est de comprendre le climat de terreur qui a régné partout. N'importe qui, spécialement les femmes, pouvait être accusée de pratiques sorcières. La sorcellerie était définie comme un crime spécial auquel les lois ordinaires d'enquête ne s'appliquaient pas. Jean Bodin, penseur français et chasseur de sorcières renommé, conseillait d'utiliser les enfants comme témoins, car on pouvait plus facilement les persuader de donner des preuves contre les accusés. Une fois inculpées, les femmes suspectées d'être sorcières étaient soumises à des tortures du genre de celles décrites dans le document d'époque qui suit. Il y a des hommes qui, dans cet art, surpassent les esprits de l'enfer. J'ai vu les membres écartelés, les yeux sortis de la tête, les pieds arrachés des jambes, les articulations tordues, les omoplates déboîtées, les artères gonflées, les veines superficielles enfoncées, la victime que l'on soulevait haut pour la laisser tomber, que l'on retournait la tête en bas, les pieds en l'air. J'ai vu le bourreau donner la discipline et frapper avec des verges et écraser en visant, charger lourdement de poids et piquer avec des aiguilles et entourer de cordes et brûler avec du soufre et arroser d'huile et roussir avec des torches. Les tortures duraient parfois des jours et des nuits, notamment en Allemagne, en Italie et en Espagne. Elle durait 1 heure, puis s'interrompait pour reprendre plus tard. Le terme de torture était totalement banni en Angleterre, puisque la privation de nourriture et de sommeil et le viol collectif n'était pas considérée comme telle. Que l'accusée succombe à cette souffrance intolérable et donne des noms ou confesse les crimes que ses tortionnaires lui suggéraient, qu'elle ait la chance d'être étranglée sur le bûcher avant de brûler ou qu'elle soit brûlée vivante, qu'elle soit pendue, bannie ou qu'elle se suicide, l'accusation signifiait de toute façon la ruine. En pratique, les accusations de sorcellerie étaient surtout dirigées contre des femmes des couches inférieures de la société. Étaient particulièrement visées les veuves, les célibataires et celles qui n'étaient pas protégées par un homme. Quand des personnes riches ou connues étaient accusées, la crédibilité des confessions arrachées sous la torture s'effondrait, et l'opinion publique influente commençait à soupçonner que les confessions antérieures ne correspondaient pas à une expérience réelle. La chasse aux sorcières était donc dirigée contre les femmes en tant que sexe et contre la classe paysanne laborieuse. J'utilise les termes de classe paysanne laborieuse et classe professionnelle argentée plutôt que les termes plus classiques de classe ouvrière et bourgeoisie, car durant cette période, avant l'industrialisation, les divisions de classe n'avaient pas encore les caractéristiques associées à la terminologie marxiste.
La question qui me vient à l'esprit à propos de la persécution des sorcières n'est pas pourquoi, mais pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi à ce moment particulier de l'histoire, les hiérarchies de l'Église catholique et de l'Église protestante récemment formées ont-elles sanctionné et encouragé la persécution des sorcières ? Quels intérêts servaient-elles ? Une société n'est pas une chose statique, un objet, une entité unique. C'est un système, un réseau de relations complexes en transformation permanente, dans lequel le tout est toujours plus que la somme de ses parties, et en diffère parfois qualitativement. Les formes de production du nécessaire et du superflu, les parts de l'un et de l'autre auxquelles ont droit les différentes classes de la société, le niveau de la science et de la technologie, la distribution du pouvoir, les rôles sexuels, l'éducation des enfants, la psychologie individuelle et les idéologies que dispense la religion, la philosophie, l'éducation et les institutions, tous ces éléments sont intriqués. Les interactions ne sont ni simples ni linéaires. Ce sont des boucles circulaires de causes et d'effets qui se nourrissent les unes des autres et agissent par pression et entraves mutuelles. Si un élément d'une société change, l'équilibre dynamique de la société tout entière est menacé. D'autres éléments vont alors se modifier pour tenter de préserver une constance dans la relation entre les êtres humains et leur environnement, afin que cette relation permette la survie du groupe. Durant le XVIe et le XVIIe siècle, la société occidentale fut soumise à des changements très importants. Les chasses aux sorcières étaient l'expression conjuguée d'un affaiblissement des contraintes traditionnelles et d'un accroissement de nouvelles pressions. C'était une période révolutionnaire, mais les persécutions ont contribué à saper la possibilité d'une révolution dont puissent bénéficier les femmes, les pauvres et les non-propriétaires. Au contraire, les transformations qui sont survenues ont avantageusement servi les classes montantes professionnelles argentées et ont rendu possible l'exploitation brutale, extensive et irresponsable des femmes, des travailleurs et de la nature. Partie prenante de ce changement, la persécution des sorcières était liée à trois processus enchevêtrés. L'expropriation de la terre et des ressources naturelles, l'expropriation du savoir et la guerre contre la conscience de l'immanence, inhérente aux femmes, à la sexualité et à la magie.
Et c'est la fin de la première partie de la brochure « Le temps des bûchers ». Vous pouvez la réécouter sur le site internet radiosaintafrique.com. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie.